Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Lui. D'actuel.
Et lui.
Et bonjour et bienvenue sur 48FM pour cette deuxième émission de Actuel et lui. Et voilà, c'est une nouvelle émission que nous allons encore vous proposer aujourd'hui. Elle sera rediffusée mardi prochain à 18h11.
Bonjour Guillaume, bonjour Aurélie,
Anne-Marie, Guillaume, bonjour.
Bonjour, bonjour les filles. Alors au programme aujourd'hui, des sujets très différents, très sympathiques. On va d'abord parler de littérature, si tant est qu'on puisse appeler les 51 degrés de la littérature, mais on ne va pas faire le débat maintenant.
On verra ça après.
On verra ça exactement dans quelques secondes. On parlera également de réseaux sociaux et on parlera aussi de Marseille, capitale européenne de la culture. Donc voilà, trois sujets pour cette émission. N'hésitez pas à commenter sur cette émission sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. N'hésitez pas à la réécouter, à la faire partager à vos amis, famille, parents, etc. Enfin, vous verrez que peut-être pas les 50 nuances de degrés, mais c'est on y reviendra dans...
Perdu au moins de 16 ans.
Voilà. Bien, on va commencer effectivement par ces 50 nuances de degrés, un phénomène dont on a beaucoup entendu parler. Peut-être Anne-Marie, est-ce que tu peux nous en dire quand même quelques mots pour ceux qui seraient complètement passés à côté de ce phénomène de littérature et voilà.
Alors un petit résumé, c'est ça.
Allez,
alors honnêtement, 50 nuances de degrés auraient très bien pu commencer par « Il était une fois, la belle Anastasia tomba sous le charme du beau Christian ». Et la saga aurait pu se terminer par « Et ils eurent beaucoup d'enfants », par exemple. Et là, forcément, vous allez me dire « On sort les violons, on sort les mouchoirs ». Donc c'est vrai que c'est un résumé très, très, très condensé, mais qui reste malgré tout assez fidèle à l'histoire des trois tomes écrits par Erika Leonard James.
C'est un verdict sans appel, ça. Dis-nous, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de l'histoire. Tu nous la résumes en trois mots.
Justement, les trois tomes sont très épais, mais disons, pour faire simple, tout le monde se souvient bien évidemment de l'histoire de Blanche-Neige, de La Belle au bois dormant, de Cendrillon. Bref, ce sont des contes de fées qui ont bercé notre enfance, en tout cas, à celle d'Aurélie et puis à la mienne. Bon, peut-être bon pour toi, Guillaume.
Oui, un peu moins.
Et là, dans cette saga... En fait, ce sont les mêmes personnages qui font leur apparition. Donc, à savoir Anastasia Steele, 21 ans. Elle est plutôt mignonne, mais potiche. Donc, elle est étudiante, elle n'a pas trop d'argent en poche. Et on voit bien qu'elle ne sait pas trop quoi faire de ses 10 doigts. Elle ne sait même pas aborder les garçons de son âge. Bref, c'est la nunuche par excellence, comme finalement toutes les héroïnes des contes de fées.
Et... C'est quand même pas sympa pour Blanche-Neige, tout ça.
Et pourtant,
a mordu dans la pomme. Hein, c'est pas une lumière.
Et donc, comme dans tous les contes de fées, il y a un prince. Et ce prince, dans 50 nuances, c'est Christian Grey. Alors, lui, il n'a pas de cheval blanc, qu'on soit honnête, mais son trip, c'est plutôt les voitures de luxe, les jets privés et les yachts. À 27 ans, il est PDG, donc c'est un PDG richissime, d'une holding américaine. Et en plus d'avoir le compte en banque de Bill Gates, il est extrêmement séduisant. Parce que imaginez un petit peu, dans le cas contraire, lui, moche, avec de l'acné juvénile...
Oui, parce qu'il est jeune finalement.
Et oui, il est jeune, il est séduisant, mais voilà, l'inverse, donc pas très beau, qui dort dans une cachoua sur le canal Saint-Martin, forcément ça fait pas très rêver tout ça. Donc en fait, dans ce roman, on a deux personnages principaux dont les contours psychologiques ont été dessinés un petit peu à la légère, il faut quand même bien le dire.
Mais pourtant, ça a quand même un succès fou.
Oui, même phénoménal, c'est incroyable. 50 nuances, c'est le phénomène de librairie le plus important après Harry Potter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le premier tome s'est arraché à plus de 65 millions d'exemplaires dans le monde. Et en 2012, donc, ce roman a fait un tabac. Sachez qu'en 2013, il pourrait encore porter chance à la Britannique James avec les deux derniers tomes, donc 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires qui sont sortis il y a très peu de temps en France, en tout cas pour le troisième, c'était il y a quelques jours.
Donc, peu d'histoire, des personnages cruches, et pourtant, comment tu vas nous expliquer ?
Voilà, pourtant ça marche,
comment tu nous expliques ça ?
En réalité, c'est à cause ou grâce au voyeurisme. Le lecteur suit la romance de ses deux amoureux, alors une romance quelque peu épicée, puisque c'est un livre érotique qui nous permet de réviser un grand classique du genre, le Kama Sutra. Enfin, bon, réviser ou découvrir, ça dépend peut-être de certains et de certaines.
Mais est-ce que réellement ils s'aiment ?
Ils s'aiment, bien sûr, ils s'aiment. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mais encore une fois, épicée. C'est pas juste fleurs bleues. Effectivement, il y a donc du sexe. Et c'est là où l'auteur britannique a tiré le gros lot. C'est qu'elle a réussi donc à utiliser une histoire complètement banale de deux jeunes qui s'aiment. Ma foi, ça se trouve tous les jours. Mais elle a rajouté un petit élément, un ingrédient même phare en fait, de cette saga, c'est le sadomasochisme. Et il n'en fallait pas plus pour que les ménagères de moins de 50 ans vivent par procuration les fantasmes d'Ellie James, qui, au passage, a 50 ans. Et la mayonnaise a tellement bien pris que la saga suscite un intérêt soudain pour ce genre littéraire réservé avant, il faut bien être honnête, à une élite de bibliophiles ou d'érotomanes. Aujourd'hui, hein, si on veut être à la mode, si on veut être in, il faut avoir lu 50 nuances. Et quelque part, cette trilogie a décomplexé les femmes. On peut aujourd'hui acheter un livre coquin dans une librairie sans avoir honte, sans en rougir en fait.
Et pas seulement les livres.
Pas seulement
ça,
les livres.
C'est une conséquence un peu directe effectivement.
Effectivement, pas seulement les livres. D'après des enquêtes et des études qui ont été réalisées sur le sujet, il s'avère qu'effectivement les ventes de sex toys ont explosé ces derniers temps. Donc pour pimenter une vie de couple un peu pépère mémère, on n'hésite plus du tout à acheter des jouets réservés aux adultes. Et Ellie James, en fait, elle a souligné le fait que le grand public est avide de ce genre de frissons et certains se sont même engouffrés dans la brèche. Alors, on le voit avec le livre Les Infortunes de la Belle au Bois dormant d'Anna Rice. Il a été réédité l'été dernier aux États-Unis et il porte sur sa couverture « Si vous avez aimé 50 nuances de grès, vous aimerez Les Infortunes de la Belle au Bois dormant » ou « Comment tirer donc sur soi la couverture ». Et pas fou, le magazine Les Inrocks a sorti dernièrement un hors-série, je ne sais pas si vous l'avez lu, intitulé « 50 nuances de livres érotiques ». Le magazine a donc choisi de proposer un panel de récits polissons, en passant par ceux d'Oscar Wilde à ceux d'Apollinaire, sans oublier le conte d'Irène d'Aragon. L'idéal finalement pour devenir un collab sur la littérature érotico-pornographique.
Et avec tout ce succès littéraire, est-ce qu'on va voir ce film à l'écran ? Ça risque d'être un petit peu porno tout ça.
Ah bah ça va être torride même, mais évidemment, puisque succès littéraire il y a, les scénaristes se penchent évidemment sur ce projet pour pouvoir réaliser donc un film. Alors on pense notamment à Kelly Marcel, la créatrice de la série télévisée Terra Nova, qui planche actuellement sur l'adaptation du roman. Elle promet donc que ce film sera sûrement interdit au moins de 17 ans. Alors, moins de 17 ans aux États-Unis, ce qui peut peut-être faire interdit au moins de 16 ans en France. On verra. En tout cas, une actrice en particulier serait intéressée donc, par le rôle de la jeune diplômée Anastasia. Ce serait Mila Kunis. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mila, mais en fait, c'est l'actrice qui a joué dans Black Swan. Mais surtout, elle a été élue la femme la plus sexy de l'année 2012 et la deuxième la plus irrésistible de l'année 2013, juste derrière Jennifer Lawrence, qui a joué dans Hunger Games. Du côté masculin, Ryan Gosling, acteur qui a joué dans Drive, mais surtout homme élu le plus désiré des États-Unis cette année par le People Magazine, pourrait interpréter le très sexy Christian Grey. Donc voilà, un couple assez torride et assez sexy sûrement, dans les salles obscures prochainement, puisque ce film pourrait sortir là cette année, en fait, en 2013.
Oui, alors est-ce que tu nous conseilles de lire cette saga ?
Malgré tout, oui. Moi, je trouve que voilà, s'il fait froid en ce moment dans les chaumières, puisque c'est l'hiver, je vous conseille quand même vivement de lire la saga d'Ellie James, même si ce n'est pas le roman du siècle. Loin de là, il réchauffe l'atmosphère, ça, c'est sûr.
Ouais, alors Aurélie, est-ce que tu as cédé est-ce que tu fais partie des 65 millions de lecteurs des 50 nuances de Grey ?
Bah oui, j'avoue.
Et alors ton...
Et tu n'as pas honte.
Non, et j'ai pas honte, la preuve, je vous le dis. Mon avis, alors effectivement, l'histoire, elle est vraiment fine comme une feuille de papier, il n'y a pas de souci, tout est entendu. Après, pour la partie un peu plus torride, on va dire que moi, le côté sadomaso, le premier tome, je me suis dit « Ah non, c'est pas possible, l'image de la femme, on oublie. »
Ah bah oui, non, c'est du sadomasochisme,
voilà, c'est clair que
oui, mais il y a toujours un rapport de dominant-dominé. Effectivement, voilà. Là, dans ce livre, au début, c'est quand même elle qui est largement dominée.
Voilà, mais donc, on va pas raconter la suite, mais au fur et à mesure des tomes, effectivement, finalement, moi, je trouve que c'est... ça devient une relation un peu plus classique et on abandonne un peu plus ce côté Heureusement, parce que franchement, oui, moi, ça me dérangeait vraiment, quoi.
Et toi, Guillaume, tu fais partie aussi de ces 65 millions
Ben, c'est-à-dire que forcément, il fallait préparer un peu l'émission. Donc,
on t'a obligé, quoi,
non,
c'est ça?
Non, je me suis dit, il faut quand même se tenir au courant. Donc, j'ai commencé, j'ai lu les 65 premières pages.
Ah oui, il a son marque-page. On a la preuve.
Ouais, ça se lit très vite. C'est vrai que voilà, on sent que c'est pas non plus un style littéraire qui va permettre d'obtenir le Goncourt ou le Renaudot, mais c'est on est dans un ça se lit bien. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment cette logique de domination. Je suis pas trop encore arrivé aux scènes plus sexes,
plutôt rides,
plutôt rides.
Et là, t'es déçu.
Mais j'ai quand même fait quelques incursions pour préparer. Pour préparer aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des trucs qui ont l'air d'être assez hard quand même.
Ah oui, puis moi j'ai envie de dire moi j'aurais eu besoin de dessins parfois pour tout comprendre limite parce que bon, c'est quand même très très osé et c'est vrai que c'est pour ça que je vous disais ça nous permet de réviser un peu le Kama Sutra, ça c'est sûr.
Oui, donc on pourra peut-être avoir une version illustrée avec le film, mais c'est vrai que ça...
On vous en reparlera à ce moment-là.
Voilà, c'est ça. Mais non, c'est un... C'est effectivement... Enfin, ce qui est assez étonnant, c'est ce succès, finalement, parce que ça interroge finalement aussi l'intérêt des gens pour ce type de sexualité aussi, qui n'est pas forcément... accepter ou en tous les cas valoriser, etc.
Tout à fait. Et puis là, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, on est décomplexé aujourd'hui. On peut acheter des romans érotiques sans avoir honte. Effectivement, donc pourquoi pas même en lire d'autres. Alors, je ne vais pas lire ça tous les soirs non plus, mais effectivement, ça nous fait découvrir en tout cas un nouveau, un genre, qui n'est pas nouveau, mais en tout cas un genre littéraire qui était un petit peu boudé, c'est vrai, jusqu'à présent. Donc pourquoi pas? Effectivement, après, comme on le disait, ce livre ne va pas devenir le prix Nobel de littérature, ça c'est sûr, mais on prend du plaisir. Voilà, c'est un petit peu comme les romans d'été qu'on lit facilement. C'est dans la lignée de Twilight, des sagas comme Hunger Games, voilà, ça se lit très vite, effectivement. Donc,
voilà, c'est une lecture de plage, de train, de...
Et pourtant, ça cartonne en hiver, mais bon.
Voilà. Oui, parce que là, il fallait se réchauffer. Voilà.
Bien, on va faire une première coupure musicale. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour rester peut-être dans ce thème?
Alors justement, pour rester dans l'ambiance, je pensais à Gainsbourg et son « Je t'aime, moi non plus ».
Et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Thank you. vais et je viens. Et je viens entre tes bras et je me tiens. Et je viens entre tes reins. Je vais et je viens. Je me retiens.
Non, maintenant, viens.
Elle
et lui.
Bon, alors moi, Guillaume, j'ai un petit message personnel. Il y a deux mamans, bien sûr, vos filles ne savent pas du tout de quoi elles parlent. Hein. C'est... Il fallait que je vous le dise, Françoise Martine. Désolée, hein. On s'excuse.
Bon, voilà, c'est noté. Les mamans sont prévenues. Anne-Marie ? Donc,
oui, retour dans Actuel et lui. Et lui... Aujourd'hui, c'est encore une fois Guillaume. Guillaume, tu vas nous parler réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bref, que des trucs pour jeunes, non ?
Ben oui, enfin des trucs pour jeunes, des nouveaux usages qui ont des côtés positifs, des côtés négatifs. On va essayer d'en parler un petit peu, de dire aussi ce que ça, parce qu'on appelle ça des réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça a un impact aussi sur
le côté
social,
sur les
liens sociaux et sur la façon dont les gens peuvent se retrouver et parler. Enfin, je trouve que c'est un sujet qui est quand même important. C'est aussi des outils d'information et on voit qu'ils ont un rôle de plus en plus important sur ce sujet-là. Mais aussi, ce sont des outils qui font polémique, qui ont des controverses. Et donc, c'est aussi intéressant d'évoquer ce sujet-là. Voilà pourquoi parler de tout ça aujourd'hui.
Très bien. Alors, on commence par Facebook ?
Oui, on va commencer peut-être par... C'est un des plus anciens, puisque créé en 2004 par Mark Zuckerberg, hein, ce beau gosse je vois Anne-Marie qui fronce ses sourcils. Hein. C'est pour rester un peu dans la... Enfin voilà, en tous les cas, ce maintenant riche créateur de Facebook.
Bah, c'est un Christian Grey.
Oui, voilà, c'est très Christian Grey, sa personnalité finalement, mais on le connaît pas, mais
on s'excuse, enfin, en tous les cas
l'image qu'on peut tout à fait coller à la lecture de Christian Grey. C'est bon, là je sors les rames, je m'enterre, tout va bien. Alors simplement, Facebook, c'est un...
Comment on l'utilise, Facebook,
non,
justement.
Non, attends, d'abord, il faut quand même dire qu'il y a quand même 25 millions d'utilisateurs sur Facebook en France, et ça correspond à 39% de la population en taux de pénétration, donc c'est vachement important. Et ça correspond, enfin, il y a 50% des utilisateurs qui ont entre 18 et 35 ans. Donc c'est quand même aussi, effectivement, ça rejoint ce que tu disais sur le truc de jeunes, mais pas forcément de très jeunes. Donc faudra, on va en rediscuter, parce que c'est sûr que ça a aussi quelques limites en termes de confidentialité et puis de risque par rapport à la vie privée. Et c'est d'autant plus important quand on est jeune. Alors il y a deux types d'usages sur Facebook. Un usage privé. C'est-à-dire qu'on a une page en tant que personne et où on a des amis, donc voilà, c'est effectivement cette logique-là. Et puis, il y a aussi des pages publiques qui sont, par exemple, pour 48FM ou pour une association, pour une entreprise, où là, ce sont des pages avec des fans, des gens qui aiment la page. Donc, c'est deux logiques un peu différentes qui ont été développées à la suite, puisque, effectivement, au départ, on était sur plutôt un fonctionnement privé avec cette logique d'amis. Mais c'est vrai qu'on pouvait difficilement être ami avec une entreprise. Enfin, la notion était un petit peu compliquée.
Et 48FM a beaucoup de fans, justement.
Alors, nous devons avoir plus de 250 amis. Enfin, pas amis, justement, mais en tout cas, personnes qui aiment la page. Voilà.
Donc, si moi, juste pour que tu me précises, donc, les amis, ils ont une interaction avec toi, alors que les fans, en fait, ils suivent ton actu, mais ils peuvent sans doute participer, mais il y a moins d'interaction, si je comprends
oui,
bien.
Oui, il y a un peu moins d'interaction, et puis la notion est quand même différente, c'est-à-dire que effectivement, quand tu aimes une page, ça veut dire que automatiquement tu vas t'abonner aux informations publiées par cette page. Avec les amis, bah là, tu crées plus une relation, et puis il y a d'autres choses qui se font aussi avec les amis. Tu peux inviter tes amis à jouer à des jeux, à participer dans des applications.
On peut passer sa vie sur Facebook.
Ah oui, complètement.
On raconte sa vie, on passe sa vie.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc effectivement, les amis, c'est aussi, c'est des façons de jouer. Enfin, il y a plein de multiples jeux. Voilà, il y a eu des jeux autour des chansons avec des défis. Tu lances des défis à tes copains. Enfin, il y a des, voilà, mais tout ça grâce avec l'utilisation derrière de Facebook.
Bon, puis c'est aussi pour se souvenir peut-être des anniversaires. Enfin, c'est tout bête, mais c'est un peu, ça sert comme un agenda aussi.
Oui, voilà,
quelque part.
Ça c'est clair que c'est. Je crois que c'est. Enfin, tout le monde maintenant, le jour de son anniversaire, reçoit des plein de messages sur Facebook, parce que bah, effectivement l'outil sert à un petit module d'agenda qui recense ses anniversaires, si tant est qu'on ait donné sa date de naissance, et ça permet de souhaiter des anniversaires. Alors, ceux qui aiment pas se faire souhaiter des anniversaires, c'est un petit peu
rare, et puis dans ce cas-là on donne pas sa date, quoi.
Et voilà. Mais après, voilà, bon, c'est vrai que l'usage principal, c'est raconter sa vie, raconter ce qu'on fait, raconter ce qu'on a envie de dire, partager une photo, un article, une page, quelque chose qu'on a envie de partager à d'autres gens. Donc là, si c'est à ses amis, bah, c'est effectivement les gens qu'on connaît. Alors voilà, la question, c'est qui sont nos amis, mais ça, c'est aussi un autre sujet plus vaste.
Oui, il y a amis et connaissances. Bon,
mais... Oui, voilà, mais c'est vrai que sur Facebook, c'est globalement des connaissances très souvent qui sont sur voilà, parce qu'on cherche aussi un peu à en avoir beaucoup, donc.
Oh, puis il faut être honnête aussi, on est tous un peu curieux et on aime bien savoir ce que fait le voisin ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, justement.
Et oui, c'est un super moyen d'espionnage, Facebook. C'est-à-dire qu'on peut savoir ce que deviennent nos vieux amis de primaire, de collège, savoir s'ils sont mariés, on voit la photo de leurs enfants, on voit, enfin voilà, on peut suivre ces choses-là. Alors, c'est pas forcément inintéressant, parce que c'est pas forcément des gens avec qui on aurait forcément envie de construire des choses, mais pour lesquels c'est intéressant de savoir ce qu'ils deviennent, et puis éventuellement d'échanger 2-3 messages à l'occasion, bah, justement, d'une naissance d'un enfant, d'une difficulté. Enfin voilà, je trouve que c'est aussi une façon finalement de rester un peu en lien, sans être dans quelque chose qui doit se construire comme une vraie relation d'amitié, où on s'appelle, où on se voit, où, enfin voilà. C'est aussi une façon de suivre ses amis, sa famille, des gens qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer souvent, mais de rester toujours plus ou moins en contact en tous les cas.
Il y a un côté quand même assez voyeur, enfin, c'est du voyeurisme, un petit peu comme on disait tout à l'heure aussi, le succès de 50 nuances de gris. En ce moment, on est quand même beaucoup dans le voyeurisme.
Et oui, on est dans le voyeurisme parce que, bah, aussi, on peut s'en servir pour faire voir ce que fait son ex, voir ce que fait le voisin aussi, hein, si on le trouve sur Facebook. Enfin voilà, c'est des
ses futurs collègues.
Oui, ou ses futurs collègues effectivement. Et ça sert aussi aux employeurs parfois pour voir les photos de son futur employé.
D'ailleurs, on t'a cherché Guillaume hein, sur Facebook.
Oh, c'est bon, j'ai 3 profils donc. Voilà, ça fait un peu beaucoup, mais bon voilà, justement, il faut.
Il y a
aussi
plusieurs personnes dans ta tête.
C'est ça, oui, c'est ça. Mais puis il y a aussi justement le besoin parfois, ouais. Bah, justement, quand on utilise aussi Facebook pour des raisons professionnelles, de justement avoir 2 identités sur Facebook pour pouvoir être plus libre finalement de ce qu'on a à faire dans sa vie personnelle et après avoir aussi une vie professionnelle avec un profil propre et sans difficulté.
Finalement, on se rend compte là, dans notre discussion que c'est très sympa d'utiliser Facebook, mais finalement, l'utilisateur, il doit le faire en toute conscience. C'est ce que tu dis quand tu dis « on fait attention à ce qu'on met ». On fait attention à effectivement qui voit ce type de profil. Voilà, il faut vraiment penser à l'utilisation dans sa globalité.
C'est sûr, et puis ça nécessite aussi pour les jeunes une certaine éducation, voilà. Parce que
d'où les polémiques d'ailleurs.
Voilà,
on peut entendre.
Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, enfin, les jeunes, on rentre dans une logique de course aux amis parfois qui est pas forcément très très saine, parce que, enfin voilà, je pense que on a autour de la table des profils Facebook, enfin j'imagine.
Gagné. Voilà. Donc tu n'as pas cherché en tout cas.
Non, j'ai pas cherché. je vous ai pas espionné, mais je crois que Anne-Marie, tu aimes la page de 48 FM.
Je l'adore. Moi aussi.
Oui, mais moi aussi. Mais voilà, Anne-Marie poste des commentaires.
Ah, voilà.
Donc voilà, ça fait écho. Voilà. Mais simplement, non, mais voilà, effectivement, je pense qu'on est plus dans une logique pour nous de justement ce que je disais tout à l'heure, suivre des amis, enfin des personnes qu'on connaît réellement, avec qui on était au collège, au lycée, etc., pendant nos études. Enfin voilà, ça a cet intérêt-là. Je pense que les jeunes ont aussi parfois une course à justement à cette amitié sur Facebook. Et ça, c'est pas forcément très 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 sain. Après, la grosse problématique et qui rejoint beaucoup le sujet des jeunes, c'est la question des paramètres de confidentialité. Alors, Facebook a fait des évolutions justement dans ses conditions d'usage qui ne sont pas forcément toujours très compréhensibles, qui ne sont pas simples dans la façon de les utiliser aussi, puisqu'on peut choisir de publier simplement à des groupes de personnes certaines informations, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se louper. Et notamment, c'est le cas de ces différentes histoires qu'il y a eu avec des événements, notamment des fêtes d'anniversaire qui étaient privées et qui se sont retrouvées publiques, où il y a eu des histoires qui ont été largement médiatisées.
Notamment 50 000 personnes aux 14 ans de la petite fille. Oui, effectivement, ouais,
c'est ça qui est un peu...
Il n'y a pas assez de gâteau. Voilà. Oups. Voilà.
Mais voilà, effectivement, c'est cette gestion de ce qui est public, ce qui est privé, ce qui est réservé aux amis, ce qui est réservé à certains groupes. Alors, il y en a qui sont des pros de cet usage-là, mais c'est vrai que c'est assez compliqué et on peut vite faire des conneries et révéler des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de révéler au grand public ou en tous les cas à certaines
personnes. Oui, à certains cercles.
Voilà.
Et puis c'est surtout qu'Internet n'oublie pas, en fait.
Et oui, c'est ça aussi.
Quand on poste des photos ou même des commentaires.
Voilà, ça c'est effectivement un des problèmes, c'est que on n'a pas totalement la possibilité d'enlever ces informations qu'on a pu publier à un moment sous le coup de l'alcool, de
nous, drogue. On ne boit jamais. Non, voilà. Voilà,
donc c'est bon.
Bon, voilà, non, mais c'est effectivement une problématique importante, ce droit à l'oubli qui reste un sujet aujourd'hui pas traité. Et puis il y a eu aussi, ça fait quand même maintenant quelques temps, ces histoires d'apéro Facebook où là, on utilisait l'outil et sa résonance pour aussi générer du lien social, c'est-à-dire de dire on se retrouve avec des grosses problématiques en termes d'organisation, de responsabilité juridique par rapport à ces grands événements.
Donc ça veut dire que 48 FM n'a jamais organisé d'apéro Facebook.
Et non, on ne fait pas d'apéro Facebook. Par contre, on peut gagner des places sur 48 FM grâce à Facebook.
C'est encore mieux.
Des places de spectacle, et on va en parler tout à l'heure du prochain spectacle. Vous avez pu gagner des places dans le mag de mardi.
Alors moi, justement, il y a un autre truc dont je voulais te parler. Moi, quand j'utilise ma page Facebook, dans la partie à droite, j'ai toujours tout un tas de pubs qui apparaissent. Et alors, en plus, je deviens peut-être un peu parano, mais on me propose toujours des régimes, des clubs de rencontres et des chaussures. Je trouve ça quand même très bizarre.
Oui, mais alors justement, c'est une des grandes forces de Facebook. C'est que comme on donne un certain nombre d'informations personnelles dans son profil, la publicité qui est mise en avant est extrêmement contextualisée. Alors, enfin, pour les régimes,
je t'assure, moi j'ai toujours régime de rencontre, chaussures, bizarrement.
Mais voilà, sans doute parce que tu n'as pas un statut en couple sur Facebook. Donc déjà, voilà, ça ouvre tout ce volet-là. Enfin, et
je suis une fille, donc j'ai droit au régime. Voilà. J'ose espérer que c'est pas plus précis que ça. Que c'est pas plus précis que ça et qu'ils ont pas des remarques à me faire. Et puis pour les chaussures, bah, je suis une fille aussi, voilà, donc normal.
Non, mais c'est très intéressant en termes d'usage de la publicité. Le ciblage, on va avoir du mal. Hein. Le ciblage qui peut être fait, notamment d'un point de vue aussi des territoires. Et ça, c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que comme vous êtes localisé, il y a aussi ce jeu-là qui est fait. Et c'est une publicité qui ne coûte pas très cher et que beaucoup de gens utilisent parce que derrière, elle a un impact qui est relativement important.
Donc c'est la fin du tout gratuit sur Facebook. Effectivement, là, il y a une notion maintenant.
Oui, et on trouve aussi, sur si on revient à ce que je disais tout à l'heure, sur les pages, donc des organisations, des associations, une notion aussi de payant pour promouvoir certains articles et faire en sorte qu'ils soient publiés. C'est-à-dire que si vous publiez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités sur une page, les personnes qui sont abonnées à la page ne vont pas voir l'intégralité des messages.
D'accord.
Donc là, c'est parce que pour pouvoir voir tous les messages, il faudrait les promouvoir en rajoutant financièrement une contribution. Donc c'est vrai que ça a aussi un coût qui est quand même important.
Mais donc il y a ce côté commercial, mais c'est quand même super pour créer des liens, pour créer des échanges.
Moi, je trouve que c'est une bonne façon d'accompagner des relations longue distance finalement, des gens avec qui on n'est pas forcément proche, des anciens camarades de promo. Voilà, je trouve que c'est une bonne façon parce qu'on a vécu des choses ensemble fortes qui font qu'on se connaît bien, mais que on va pas appeler forcément 30 ou 40 personnes toutes les semaines pour savoir ce qu'ils deviennent. Et si on en fait un usage qui est pas trop lourd, je trouve qu'on peut avoir justement cette entrée-là qui est plutôt sympathique.
Et oui, ou les copains, la famille qui sont loin, à l'étranger, c'est vraiment...
Il y a quand même eu un flop dans toute cette histoire de Facebook, non ? L'entrée
flop,
en bourse.
Oui, un flop, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas, pas le succès espéré. Sans doute lié aussi un peu au contexte, mais aussi sans doute à quelque chose qui était un peu idéalisé autour de Facebook. Bon, voilà, ça a quand même permis de lever beaucoup d'argent pour Facebook. Mais c'est vrai que cette introduction en bourse n'a pas été un grand succès.
Donc ça, c'était pour la partie Facebook. Il y a un réseau social aussi qui fonctionne pas mal en ce moment, c'est Twitter. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Et oui, alors Twitter, c'est plus récent, ça date de 2006. C'est d'abord, avant tout, du microblogging. C'est pas forcément un réseau social, on l'appelle un réseau social parce qu'il y a un certain nombre d'interactions qui existent. Mais le principal, c'est de finalement pouvoir publier un message de 140 caractères et d'exprimer quelque chose. Ce qui est important dans Facebook, à moins d'avoir un compte cadenassé, c'est que les messages sont publics et tout le monde peut y accéder. Donc c'est une façon sur Twitter, pardon. J'ai dit une bêtise. Oui. Sur Twitter, les messages sont publics, donc ça veut dire que tout le monde peut y accéder. Et donc ça
à l'inverse de Facebook, où effectivement,
on peut avoir des niveaux de privé et des niveaux de confidentialité. Là, c'est vrai que tout ce qui est publié sur Twitter, si on y a accès, si on va voir un compte, on a accès à tout ce qui a été publié, à moins d'être sur un compte verrouillé. Mais un compte verrouillé a très peu d'intérêt. Alors après, on est dans une logique d'abonnement et c'est là que c'est la première interaction avec les autres personnes et ce qui donne cette notion de réseau social, c'est que on va suivre finalement ce que vont dire plusieurs personnes et ça enrichit finalement toutes les publications des gens, ça enrichit ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire ce qu'on a sur la quand on se connecte à Twitter, c'est-à-dire l'actualité, les messages de 140 caractères de toutes les personnes à qui on est abonné. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est 1,4 million d'utilisateurs uniques en France le 6 mai 2012 qui a été un moment au moment des élections. Donc, bon, quand même beaucoup moins d'utilisateurs que Facebook, mais une utilisation sur Twitter qui monte beaucoup et qui est un usage aussi mixte souvent, entre le professionnel et le perso. Enfin, on trouve des choses assez. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont positionnées sur Twitter, qui sont aussi positionnées. Et des gens aussi individuels qui sont là-dessus. Je trouve que il y a plus Facebook finalement tend à être beaucoup plus sur du personnel, même si un certain nombre d'entreprises, notamment touristiques, culturelles, sont sur Facebook. Mais finalement, ça interroge plus la sphère privée. Alors que Twitter, on est dans quelque chose d'un petit peu plus ouvert du fait aussi de sans doute de des messages un peu plus courts.
Et 48FM a aussi un compte Twitter.
Tout à fait. Pour les actus chaudes du moment, les scoops, mais aussi pour effectivement pousser des liens. C'est un des intérêts aussi de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est de mettre en avant des liens vers un site internet. Ça, c'est ce qu'on faisait autrefois avec les flux RSS, mais la dynamique des réseaux sociaux, elle est beaucoup plus rapide. Et c'est vrai que c'est générateur de flux pour les sites internet. Et c'est pour ça qu'on publie les choses sur ces réseaux. Mais c'est assez intéressant parce que finalement, on n'est pas forcément intéressé pour aller voir tous les jours 4-5 radios ou 4-5 journaux. Par contre, on peut s'abonner à Twitter, à ces 10 médias. Et finalement, avec un message de 140 caractères, on a le titre de l'article. Et si l'article nous intéresse, tac, on clique dessus et on accède à l'article. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant dans cette idée d'un petit peu de suivi de l'actualité de façon quotidienne. Et ça, on peut en avoir un usage très professionnel avec des newsletters ou en tous les cas des sites professionnels qui publient de l'information pro. Et à ce moment-là, ça se fait, on se fait automatiquement ça. Tout ça, cette mise à jour automatique.
Donc, on reçoit, en fait, là la différence, c'est qu'on reçoit, de l'info.
Et on choisit de la lire ou pas, d'aller plus loin, souvent, parce qu'il y a souvent soit une photo, soit un lien. C'est souvent, ça renvoie vers autre chose.
D'accord, mais on n'est pas vraiment dans l'interaction, alors on reçoit simplement.
Alors, si, il y a de l'interaction, il y a de l'interaction notamment avec les médias, et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Avec notamment certaines émissions politiques ou certains grands événements comme les Energy Music Awards, les Victoires de la Musique, aussi toutes les téléréalités où là, finalement, on a maintenant la possibilité d'annoncer par exemple le mot dièse, on va revenir, ou le hashtag de l'événement, et donc de pouvoir commenter, de pouvoir interagir. Et les médias maintenant reprennent sur un certain nombre d'émissions les commentaires des internautes et les publient directement sur le site. C'est même poussé à l'extrême avec l'émission C'est-à-dire sur France 5, où les messages, donc au départ c'était des SMS qui étaient publiés initialement, et maintenant France 5 a développé une logique de téléconnecté où la tablette ou le mobile devient un deuxième écran de l'émission et sur lequel justement il y a ces interactions qui sont poussées, qui sont mises en valeur, et c'est assez intéressant, c'est assez innovant. Après, c'est vrai que ces hashtags, ces mots dièses, on va revenir sur ce que c'est, mais ils servent aussi à commenter l'actualité quand elle se fait et quand il y a un grand événement. Bon, on va revenir bien sûr sur la question là, notamment des débats sur le mariage gay où il y a eu une très très forte mobilisation sur Twitter avec un certain nombre de choses qui se sont exprimées grâce à ça. Ça permet vraiment de suivre l'actualité avec les différents événements quand c'est une actualité qui se construit sur une journée, on a vraiment cette possibilité de suivre le déroulement de l'actualité.
Et donc, tu nous disais que tu voulais nous expliquer un petit peu les hashtags, parce que c'est vrai que c'est des mots un peu barbares.
Oui, alors voilà, la logique de réseau social, elle s'exprime aussi justement grâce à ces hashtags, parce que c'est un espèce de mot-clé qui permet d'accéder à un certain nombre d'informations qui sont appelées pareil. Voilà, c'est vraiment une logique de mot-clé, et ça permet d'accéder à tout ça. Et dans le fonctionnement de la logique de réseau social, il y a des habitudes sur Twitter, notamment il y a le jeudi confession où on raconte des petits détails croustillants sur sa vie, hein. On peut raconter quelle position nous avons essayé dans le cadre des 50 nuances, enfin quelle page on en est. Et puis il y a le Follow Friday qui est en fait un espèce d'incitation à ses abonnés de suivre d'autres abonnés parce qu'on juge que leur contenu est intéressant, etc. Alors c'est une tradition qui se perd un petit peu, mais voilà, donc ça c'est aussi des logiques d'interaction qui existent là-dessus. Mais les hashtags, c'est aussi et les mots dièses, parce que maintenant le français est passé par là et ça s'est transformé en mots dièses. Ça a été aussi une source de controverse relativement importante, avec des hashtags haineux, racistes, homophobes qui ont pas mal tourné, notamment ces derniers temps. Donc par exemple, vous aviez des propositions du style un gay mort ou un juif mort. Et après, à vous de compléter, mais voilà, vous imaginez le niveau, donc c'est quand même, on est quand même dans des choses pas très très ragoûtantes, voilà, ou si mon fils est gay, si mon voisin est juif, enfin voilà, donc des choses vraiment qui vont vers les plus mauvais instincts, je trouve.
Il faut ressortir le meilleur de l'humanité.
Ouais, voilà, c'est vraiment pas très sympa. Donc les pouvoirs publics ont essayé de négocier un peu avec Twitter les choses. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression aussi, donc c'est toujours très très compliqué, d'autant plus que Twitter n'est pas une entreprise française et donc le degré d'action est relativement faible là-dessus.
C'est une entreprise d'ailleurs qui vient d'où, on a dit ?
Une entreprise américaine.
Une entreprise américaine.
D'accord. Cela dit, on parle de tweets célèbres, justement, cas célèbres.
Oui, il y a quelques cas.
Il y en a un, notamment.
Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a le tweet du ministre Besson qui était censé envoyer un message privé, puisqu'on peut utiliser des messages privés aussi dans Twitter. Et puis finalement, c'était un message d'amour, mais a priori pas pour sa femme. Donc ça a effectivement fait beaucoup parler.
Ah oui, c'est ce qu'on a dit, hein, l'usager a un vrai rôle à jouer.
Oui, voilà.
Faut faire attention.
C'est vrai que c'est important sur Twitter, on est sur un outil public. Donc il faut faire attention. Et c'est pour ça que ce service de message privé est finalement très très peu intéressant. Enfin, je veux dire, autant envoyer un SMS c'est un peu là, c'est vraiment l'outil est vraiment pas le bon. Après, c'est vrai que bon, on parle de Besson. Twitter, c'est un outil qui est très accaparé par les politiques. Il y en a qui ont eu des activités très prolixes sur ce réseau social. Bon, voilà, Nadine Morano, par exemple, qui était vraiment sans filtre sur ce réseau social, donc c'était parfois un peu...
En même temps, elle est très nature aussi,
oui.
La vie.
Quand elle parle aussi sur les réseaux sociaux. Voilà.
Et puis, après, dans les tweets célèbres...
celui auquel moi je pensais.
Voilà, celui auquel tu pensais, c'était le tweet de Valérie Trier-Weller, de soutien à Olivier Falorni, en plein dans cette campagne des législatives à La Rochelle. Donc voilà, sachant que c'était Ségolène Royan qui était investie par le Parti socialiste. Voilà, après, on peut aussi parler du rôle de Twitter dans les révolutions arabes. On peut aussi parler de Twitter dans le suivi de l'actualité, effectivement, au moment du débat à l'Assemblée sur le mariage pour tous, avec le hashtag direct AN pour Assemblée nationale, qui a été très fréquenté à la fois par les pros et par les anti, mais qui a été aussi un peu poussé sur des réactions pas forcément très très sympathiques, là aussi pas forcément très très heureuses sur le camp d'en face, avec machin joue au Scrabble, vous avez vu sa tête, les gilets de monsieur Intel, enfin bon, voilà, c'était pas forcément très 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 intéressant.
Apparemment, il y a quand même 310 députés actifs sur Twitter, 310 sur un total de 577. C'est vrai que ça fait pas mal.
Et oui, parce que je crois que c'est vraiment un outil aujourd'hui qui se démocratise justement dans cette information qui est pas forcément très très longue, mais pour dire ben voilà, j'existe, je fais des choses. Je trouve que c'est vraiment un moyen de sans forcément en faire des caisses, pour montrer son activité. Je crois que c'est vraiment aussi un outil pour ça.
Oui, mais enfin, l'Assemblée nationale, c'est justement un endroit où on est censé débattre et discuter avec ses collègues. Ce que je disais, moi, justement, qu'il y avait une résolution dans l'air pour interdire les réseaux sociaux à l'Assemblée, disant que, partant du principe que, justement, les débats devaient avoir lieu à l'intérieur et pas forcément avec l'extérieur.
Ouais, moi ça me choque pas forcément qu'il y ait ces débats-là. Il faut que ça reste, relativement correct. Je pense qu'il faut qu'effectivement il y ait peut-être quelques règles, mais le fait que les internautes puissent réagir et interagir avec les députés sur certains grands débats comme ça. Ça me semble pas inintéressant en tous les cas dans une autre forme justement de démocratie et une autre façon de s'exprimer. Je trouve que ça donne aussi parfois, je pense aux élus, des retours de ce qui peut se passer clairement, enfin de ce que peuvent penser certains de leurs partisans ou de leurs amis, des gens qui les suivent.
Alors justement, moi, il y a une autre assemblée là qui va se réunir bientôt, dont j'aurais bien voulu qu'on sache ce qui allait s'y passer. C'est le conclave pour élire Benoît XVI, mais les tweets vont être interdits.
Oui.
Pourtant, il y a notamment, quand même, j'ai lu ça, alors je vous le dis, le cardinal de New York qui a, attention, 80 000 abonnés sur son Twitter. Et donc, il va être interdit de tweet pendant quelques temps.
Et oui, c'est effectivement, voilà, là, on a quelque chose d'un peu plus...
On va rester à la fumée blanche, là.
Ouais, voilà, on va rester à des choses un peu plus...
Classique.
Voilà, après, juste pour terminer sur Twitter, parce qu'il faut quand même qu'on avance, le dernier scandale, c'est Vin, qui est une application de vidéo qui est un petit peu nulle et qui a été classée porno parce que très très vite... c'était pour rester dans la thématique du jour.
Oui.
Voilà, donc c'était effectivement un classement comme cela. Voilà, après, simplement pour finir, on va parler en deux mots des réseaux sociaux professionnels, donc LinkedIn et Viadeo qui sont les plus connus. Qui finalement servent plutôt à mettre en avant son CV. Mais justement, il faut aussi en faire attention à ne pas en faire son Facebook et avoir tous ses amis sur son profil professionnel. Sinon, il n'y a pas grand intérêt à ça. Et puis, par contre, on peut aussi évoquer des réseaux sociaux professionnels qui, là, sont plutôt pour faire vivre des communautés de travail sur des réseaux, sur des échelles un peu larges. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Voilà, donc simplement, on peut rappeler les réseaux sociaux de 48FM, parce que c'est l'occasion
allez,
ou jamais.
Allez, tant qu'à faire.
Hein, donc le @48FMMande pour Twitter et 48FMMande Lozère pour Facebook. Voilà.
Super. Et qu'est-ce que tu nous proposes comme musique ?
Alors, je vous propose comme musique d'écouter un petit extrait de Courir les rues et sa bande. C'est le spectacle que vous entendrez au théâtre municipal jeudi à 20h30, donc ce soir, hein, puisque cette émission est enregistrée. Donc voilà, on vous le dit, mais donc ça sera ce soir à 20h30. Il y a encore des places, donc vous pouvez y aller. On écoute ce petit morceau, et comme ça, vous allez entendre ce que vous allez pouvoir découvrir ce soir au théâtre.
C'est un plaisir de vous présenter ce soir.
Tout de suite après. Et tout de suite après, on parlera de Marseille-Provence.
Et pas un palais d'ambre pour la galerie des miroirs. Je me contenterai d'un placard, une porte, une sonnette avec mon nom sur l'étiquette. Tirer la chevillette ou un truc dans ce genre-là. Une fenêtre pour surprendre. Demain apparaître pour le réveil un évier avec de l'eau pour pas puer. Un logement pour tous et ceux qui n'en ont pas. Un logement avec un toit et avec toi dedans. À chacun son chez moi, un petit coin à soi. Histoire de border ses draps ailleurs que sur le banc d'en bas. Fini le petit coin parapluie pour tout ce qu'on bat. Un radis, pas un lopin de terre, ni même un bout de jachère. Et y'a rien qui pousse sur leur carton, ni même dans leur caddie. Juste des sacs plastiques, version décoration rustique. Une ticket radio sans fil qui marche pas, y a pas de pile. Faire semblant d'être branché, connaître les chevaux les plus joués.
Et lui.
Hey, salut, d'où tu viens toi?
Hey, moi je viens de Marseille, mec.
Ah ouais. Et dis-moi, Marseille, à part jouer au foot, vous faites quoi avec vos pieds?
On est le roi de la danse, ok? Chez nous, on danse le milliard. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient.
Stan Smith au pied, le regard froid, il scrutait la salle, trois quarts enfilés autour du bras. La banne sur la tête, sur vêtements taquini, pour les plus classes des mocassins, Nebuloni.
Dès qu'il passait, caméo Midnight Star, SOS Band, délégation ou Shalama.
Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours de danse un peu partout s'improvisaient.
On te propose un voyage dans le temps,
via planète Marseille, on danse le Mia.
Et toi, tu viens d'où?
Voilà, c'était les clichés de Marseille. On part à Marseille pour Marseille-Provence, capitale voilà. Européenne de la culture.
Effectivement, autant prévenir tous ceux qui veulent se rendre à la capitale culturelle 2013, laissez vos préjugés, gare Saint-Charles. Certes, en devenant pour 2013 la capitale européenne de la culture, Marseille ne s'est pas dépouillée des attributs tenaces de sa caricature. Le chômage est endémique, les inégalités très fortes, les faits divers font les choux gras de la presse, et les rouages politiques et sociaux grincent régulièrement. Pourtant, je vais essayer de vous montrer que la cité phocéenne change peu à peu de visage. Sous l'impulsion du projet Capitale Européenne de la Culture, des projets architecturaux et urbanistiques, dans les cartons depuis quelques décennies parfois, se concrétisent. En fait, la ville compte sur ce qu'on appelle un effet Bilbao.
Et c'est quoi l'effet Bilbao?
Alors l'effet Bilbao, c'est d'implanter dans une région où où l'économie, la culture, la démographie sont peu dynamiques, un geste architectural fort, porté plutôt par une institution prestigieuse, un peu comme une marque. C'est ce modèle, plus ou moins en revendiqué, qu'utilise le centre Pompidou-Metz ou le Louvre à Lens. Donc en fait, ruinée dans les années 80 par la crise économique, la ville de Bilbao et le gouvernement basque ont su réagir de manière drastique. Ils investissent dans un projet global de rénovation urbaine et en 91, ils présentent leur candidature à la Fondation Guggenheim de New York pour l'antenne européenne. Le musée sera d'ailleurs inauguré en 1997. Et en quelques années, cette ancienne cité des mines et des chantiers navals devient une destination touristique de premier plan. Aujourd'hui d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le musée Guggenheim de Bilbao draine, attention, quelques 900 000 visiteurs par an, soit deux fois plus que l'objectif initial. Alors les raisons d'un tel succès sont avant tout à mettre sur le compte de ce bâtiment. Il a été classé numéro un des grandes réalisations architecturales des 30 dernières années. Mais au centre Pompidou-Metz, par exemple, où on est déjà à 500 000 touristes par an et 1 million de visiteurs la première année, ou à Lille 2004, capitale, une autre capitale européenne de la culture, on a 1 million de visiteurs. Donc ces exemples servent d'aiguillon un petit peu pour Marseille.
Et alors, il y a eu donc Lille 2004, il y a Marseille-Provence 2013. Qu'est-ce qu'il faut pour être capitale européenne de la culture ?
Alors, l'attribution de ce label est lancée en 1985 par le Conseil des ministres de l'Union européenne à l'initiative de deux ministres qu'on connaît plutôt bien, la grecque Mélina Mercouri et le français Jack Lang. Donc, l'initiative de ces capitales européennes, elle a plusieurs objectifs. Mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes, célébrer les liens culturels entre les Européens, faire rencontrer ces personnes qui peuvent avoir des cultures bien qu'européennes différentes, encourager la compréhension mutuelle et renforcer le sentiment de citoyenneté européenne.
Tout ça. C'est important puisque 2013, c'est l'année européenne des citoyens.
Voilà, donc là, on se crée une histoire commune en quelque sorte, c'est l'objectif. Et à cette occasion, en fait, les études montrent que cet événement constitue une belle occasion de régénérer les villes, de redynamiser leur vie culturelle et de renforcer surtout leur visibilité au niveau international. Évidemment, pour un Français, Marseille, tout le monde connaît. Après, à l'échelle mondiale, c'est pas évident. Là, on espère donc stimuler le tourisme et améliorer l'image qu'en ont aussi leurs propres habitants, un peu dans le regard des autres.
Alors pourquoi c'est si important que ça ?
Alors le statut de capitale européenne de la culture peut être en fait une manière de lancer une vaste opération de marketing territorial des régions plus ou moins sinistrées ou de dynamiser certaines villes. C'est ce qui motive le choix en fait dans l'histoire d'anciens bastions industriels comme Liverpool en 2008, la Ruhr en 2010 ou évidemment Lille qui longtemps avait une image un peu de zone sinistrée anciennement associée aux mines.
Bah, ça s'est passé comment pour Lille en 2004 ?
Alors, le projet Lille 2004 était mené par la municipalité de Lille à l'occasion de sa désignation avec un binôme. C'était Gênes en 2004, le binôme de Lille.
Et qui est le binôme de Provence ?
Ah, voilà. Alors là, je m'y attendais. Donc, j'ai fait mes devoirs. Et donc, c'est une ville qui s'appelle... Mince, si, j'ai cherché.
Mais c'est dans un pays balte, je crois.
Non, c'est en Slovénie.
Ah, c'est en Slovénie.
Ah, voilà. Alors, attention. Košice.
Ah oui,
Košice. Voilà exactement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure d'une ville que, enfin, je pense qu'autour de la table, personne ne connaissait cette ville de Slovaquie. J'ai dit Slovénie, c'était Slovaquie. Donc okay. Voilà, ça va lui on espère que, comme pour Marseille, ça va lui permettre d'avoir un focus en fait sur cette ville.
Oui, et donc Lille, finalement, qu'est-ce que ça a apporté à Lille, cette ville, cette capitale européenne de la culture ?
Donc en fait, le choix qui a été fait par la commune de Lille, c'était vraiment de marquer l'histoire des événements culturels en proposant des pratiques et des expériences un peu tout azimut. Par exemple, l'ouverture de Lille 2004, en fait, a été marquée par un bal populaire, un bal blanc, ça s'appelait, dont les 500 000 participants étaient habillés en blanc. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était assez magique. Alors, le succès en quelques chiffres, parce que vous dites bien que si je vous donne cet exemple, c'est que c'était un vrai succès. Donc, Lille 2004, c'est 193 communes de la région, c'est 2500 manifestations culturelles, fêtes, expos, 17 000 artistes réunis et 9 millions de visiteurs, puisque bien sûr, in fine, c'était ça.
J'en ai fait partie et c'était vraiment très très sympa de découvrir cette ville avec ce foisonnement d'initiatives artistiques et culturelles.
Et alors surtout, l'intérêt, c'est que non seulement on a eu un foisonnement en 2004, mais on a aussi de façon pérenne un changement d'image sur le Nord et sur l'île. Et avec ce succès qui est prolongé par un projet qui s'appelle désormais Lille 3000, donc là, ils sont un objectif beaucoup plus lointain, à partir de 2006, en fait, pour pérenniser cette flamme, tous les trois ans, ils lancent, la ville de Lens lance un grand événement. Alors, il y a eu Bon Baiser de Lille en 2006, l'Europe XXL en 2009, et puis vous avez peut-être entendu parler cette année de l'île fantastique qui s'est achevée là, le 13 janvier de cette année.
Donc ce label de ville européenne de la culture apporte beaucoup à la ville qui est labellisée.
Alors oui, elle apporte beaucoup quand on a affaire à un projet réussi. Malheureusement, il ne faut pas oublier certains échecs avec des villes qui ne sont pas parvenues à profiter de ce statut de capitale européenne de la culture. Patras, par exemple, métropole grecque du Péloponnèse, voilà, inconnue au bataillon, désolé, a bénéficié de ce titre en 2006. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas que nous qui ne connaissons pas Patras, puisque seulement 16% des Grecs savait que cette ville était capitale européenne de la culture. Pour Vilnius en 2009, c'est également un échec pour d'autres raisons cette fois, où là, en fait, en pleine crise économique, les Lettons ne sont pas parvenus à surmonter en fait, le frein du développement de l'année culturelle et à mobiliser les énergies et les fonds nécessaires.
Bon, et donc à Marseille, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pendant cette année 2013 ?
Alors, je vais essayer de vous rendre un peu le foisonnement du programme. Donc, des événements festifs, des expos, des manifestations culturelles, mais aussi des aménagements urbains, de nouvelles institutions culturelles, de l'art contemporain dans l'espace public, du cirque, une transhumance entre l'Italie et la France, des spectacles pyrotechniques, une expo Rodin, une rétrospective majeure sur la modernité en peinture au musée des Beaux-Arts du Palais Longchamp, qui va s'appeler le Grand Atelier du Midi de Van Gogh à Bonnard, une foule d'événements qui vont se succéder tout au long de l'année 2013, mais aussi des visites innovantes, avec par exemple un truc qui m'a bien plu, alors je vous en parle un peu plus, c'est la coopérative Hôtel du Nord. En fait, ils vont organiser à la fois des balades et la possibilité en fait, de se loger chez l'habitant. Un tout nouveau circuit de grande randonnée, un GR, qui va traverser le nord de la ville. Enfin, allez voir le site. Donc, justement, on en revient à l'interaction. Donc, c'est MP pour Marseille-Provence 2013.fr. Il est vraiment très sympa, très bien fait. Il fourmille d'idées et il est très interactif, justement, un peu sous la forme de blog pour qu'on se tienne au courant de tout ce qui va se passer.
Et dans les initiatives aussi d'une ville européenne de la culture, il y a des projets architecturaux. Alors, on en a vu quelques-uns au moment de l'inauguration, on en a vu à la télé, notamment le nouveau grand musée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'intérêt c'est vraiment de pouvoir faire naître des grands projets. Donc on a notamment 10 grands projets architecturaux qui vont être phares et qui sont aussi, c'est une des spécificités de cette capitale européenne de la culture, répartis sur l'ensemble d'un territoire. Donc, le Provence, de Marseille-Provence 2013. Donc, par exemple, à Arles, on va avoir l'extension du musée de l'art antique pour accueillir les fouilles du Rhône, dont le buste de César, dont vous aviez peut-être entendu parler, mais aussi, justement, toute la transformation de la façade maritime de Marseille, avec sur l'esplanade J4, donc c'est une des parties du port, le MUSEM, je pense que c'est de celui-là dont tu parlais, donc le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. La Villa Méditerranée, mais aussi le Conservatoire de musique à Aix, et je vous en passe. Il y a une autre chose aussi, moi, qui m'a bien plu. Donc là, à nouveau, sur les projets architecturaux, un petit coup de cœur, au hangar J1. Donc c'est en fait un hangar qui était réservé, en fait, puisqu'il servait pour les gens qui traversent la Méditerranée. Donc c'était seulement les passagers qui pouvaient y entrer. Et là, Marseille-Provence, en fait, a installé un peu le cœur avec un point info, une boutique-librairie, un resto et une salle d'expo. Donc là, on n'est que dans le temporaire, mais on associe une fonction puisque les bateaux continuent à coster à gauche et à droite du J1. Et au milieu de cette effervescence, de ce travail habituel, on a donc la culture au cœur des choses.
Et alors, comment se prépare la suite ?
Alors, c'est un pari sur l'avenir. Hein. On va essayer de pérenniser la création culturelle. Et pour être réussi, en fait, on ne doit pas avoir justement une fête sans lendemain, mais bien avoir des nouveaux équipements, des nouveaux aménagements urbains pour permettre l'accueil, donner un nouvel élan au tourisme et être bénéfique, encore une fois, à la qualité de vie des habitants.
Alors, on a entendu parler aussi de controverses, de réactions un petit peu fortes ces derniers jours par rapport à un grand concert avec des cachets très importants qui étaient envisagés. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les critiques autour de ce projet, peut-être ?
Alors, oui. Donc, effectivement, la polémique dont tu parles, en fait, alors qu'à Lille, on avait réussi à faire participer presque 50% d'artistes régionaux, on a plusieurs cas, en fait, d'artistes un peu importés, si j'ose dire, de gens qui vont, pour certains, et c'est ce à quoi tu fais allusion, être payés assez cher. Donc, les gens sur place disent, mais nous, ça fait des années qu'on travaille ici et donc il n'y a pas de raison qu'on ne participe pas et qu'on ne soit pas nous mis en avant. Ça se justifie en même temps. C'est aussi peut-être un autre, euh, Un autre reproche qu'on peut faire à ce projet, c'est que on a une identité forte à Marseille et ces aménagements urbains ont un peu tendance à essayer de niveler quelque part et rendre Marseille un peu comme toutes les autres villes avec le même environnement, et peut-être qu'elle va perdre un peu en charme. L'autre écueil, en fait, c'est que 2013 est déjà commencé et qu'en fait quasiment aucun des grands chantiers n'est terminé. Alors le Palais Longchamp n'est pas terminé, le FRAC, la Villa Méditerranée, il y a plusieurs chantiers qui sont toujours jusque justement au musée des civilisations là, de l'Europe et de la Méditerranée, où là on a mis tellement de temps à démarrer les travaux, à être d'accord, que imaginez un peu si le clou du spectacle n'est visible qu'à mi-parcours, voire peut-être que fin 2013. On parle de beaucoup de retard, presque 30 ans de retard dans le domaine des investissements publics pour la culture à Marseille, qui risque de gâcher un peu la fête. Mais bon, malgré ces cafouillages, on a quand même 500 expositions de programmées, des inaugurations, des rassemblements populaires, des concerts, et on attend 10 millions de visiteurs.
Et depuis l'ouverture, ça marche quand même, il y a du monde justement.
Donc oui, effectivement, les 12 et 13 janvier, jour de lancement des festivités, ont été vraiment une réussite populaire. Plus de 600 000 personnes ont assisté aux différents spectacles, dont 400 000 à Marseille, 35 000 à Aix, 30 000 à Arles. Les lieux en fait étaient ouverts gratuitement le dimanche et ils ont été vraiment pris d'assaut. Alors pour les 15 000 visiteurs du chantier encore du MUCEM, ils avaient la chance d'être accueillis par Rudy Ricciotti qui est l'architecte en fait. Donc du coup c'est vrai que c'était des moments un peu particuliers. 7000 visiteurs à la Friche Belle de Mai. Donc on a vraiment un succès populaire dès à présent.
Pour terminer cette présentation de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, peut-être qu'il y a des petites astuces, des petites choses sympas en termes de pratiques pour accéder, pour vivre cet événement aussi, parce que forcément, pas forcément les moyens d'hébergement, de tout ça.
Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure du circuit Hôtel du Nord. Il y a une édition spéciale du Routard, spéciale Marseille-Provence 2013. Des sites dédiés au covoiturage, au couchsurfing, la mise en place de greeters, donc qui sont des Marseillais, qui vont vous accueillir. Donc sur ces nouvelles façons de faire du tourisme, on a comme ça possibilité, en lien sur le site, d'aller sur ces plateformes d'échange et de vivre l'événement de façon plus sensible, quoi, vraiment en rencontrant les gens. Donc allez-y, ça devrait être sympa.
Et merci pour cette évocation de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture pour cette année 2013. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On va se proposer de vous quitter en musique avec Barrio Populo. C'est un artiste que vous entendrez cet été au festivalier à Langogne. Donc on écoute ce morceau. Ouh là 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 là, yeah. 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 En secret, à se noyer ensemble dans ce qui nous transporte. Et nous on rêve et nous on oublie l'avancée. Dans l'insouciance des enfants que nous sommes en secret. Et on sait qu'on ne pourra s'enfuir. Car on se crée dans ce torrent du devenir. Et nous on déchire un C, on n'a pas peur de se mouiller. Pourtant on est si seul à se noyer en secret. Alors on parie.
donné un mon regard passionné. Ton amour a baisé ma liberté en secret.
Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter cette émission et à très bientôt pour un nouveau numéro dans une quinzaine de jours de Actuel.
Et lui.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle et lui.
Elle.
Lui.
Actuel.
Et lui.